Culte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, le journal de Tumulte avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Mais d'ici là, une demi-heure de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce Tumulte numéro 985. Jean au micro, salut. Pour commencer, le groupe Violent Femmes, extrait de l'album Hello Ground en 1984.
All my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. Screaming as she fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit.
I'm going out to the barn where I never stop in pain. barn to hang myself in shame.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Otis Redding, bien sûr, c'était Dock of the Bay, on reste dans sa compagnie.
Too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't wanna stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing. Our affair grows. I've been loving you, oh, too long to stop now. Oh, oh, oh. don't want to stop. Oh, oh, don't make me stop that. Oh,
finir avec le jugement de Dieu, Antonin Artaud, remixé par DJ Spooky.
Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit, l'un de ces sales ragots, comme ils sont colportent entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus. Ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme. À demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées.
Voilà, c'était le trio de Eric Lenini, extrait de son nouvel album intitulé Tripping, comme le morceau qu'on vient d'écouter. Eric Lenini au clavier, piano, Franck Aguillon à la batterie et Mathias Salaman à la contrebasse. James Joyce sa voix, mixé avec une gnossienne de Eric Satie, toujours DJ Spooky. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans une dizaine de minutes, le journal de Tumult avec Laurent Cordonnier.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country, into an age remote from this age, that I stood in ancient Egypt, and that I was listening to the speech of a high priest of that land, addressed to the youthful mortal. His listeners held their cigarettes poised to the earth, their smoke ascending frail stalks that flowered with his speech. Noble words coming. Look out. Would you try your hand at it yourself? And it seemed to me that I heard the voice of that Egyptian high priest praised in a tone of light-heartedness and light-pride. I heard his words, and their meaning was revealed to me from the Father. And it was revealed to me that all things are good which yet are corrupted, which neither if they were supremely good nor unless they were good could be corrupted. Why will you Jews not accept our language, our religion, and our culture? You are a tribe of nomad herdsmen. We are a mighty people. You have no city, nor no wealth. Our cities are hives of humanity. And our galleys, trireme and quadrireme, laden with all manner merchandise, furrow the waters of the known globe. You have but emerged from primitive conditions. We have a literature, a priesthood, an age-long history, and a policy. Nile, Cairo, Man, Ethiopia, by the Nile bank, the babe Mary's needle, cradle of bulrushes. A man subtle in combat, stone horned, stone bearded, heart of stone.
Hey, sister, have you heard? Some people stand like trees without a word. And what that means is that some people don't talk.
On termine cette première séquence tumultueuse avec Violent Femmes.
Oh, please pardon me, mister. You know, I just didn't hear you that first time that you said that. But now that you repeated it for me, I'll be sure to do what I can. Yeah, no, I'm gonna do what I can, do what I can. Do what I can, I'll do what I can. Father, you know, I just didn't hear you that first time that you said that. No, you repeat it. I'm gonna do what I can, do what I can, do what I can, do what I can, yeah, do what I can, do what I can, do what I can, but no more. Understand? It's a
utmost importance. We're dealing with volatile substance. It's of utmost importance. We're dealing with volatile substance. It's of utmost importance. We're dealing with volatile substance. It's of utmost importance. We're dealing with volatile substance. I've had so much on my mind. I was so glad when I died. Listen to me, baby. Can you keep a secret for me? Make sure no one finds out. 'Cause then the lights will go out. And I will find you out. And I will cut you up. Me why, because I said I'm gonna do what I can, 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 do what I can. I'll have none of that. You know nothing, you never tell us someone. Don't you know nothing, you never tell us someone. Don't you know nothing, ain't never gonna tell us someone. What are you gonna do, you gonna turn rat thing. What do you wanna do, you wanna see what's like to sink. Sink down, sink down, sink down. Down, down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river. Don't you know no one? You never tell us someone. Don't you know no one? You never tell us someone. Don't you know no one? Never tell us someone. Don't you know no one? You ain't never gonna tell us someone. Tap, tap.
Le journal de tumulte avec Guy sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Avec lui, nous allons faire le point sur la crise, un petit résumé de situation pour savoir à peu près où on en est. Nous examinerons les différents plans de relance et puis nous envisagerons quelles sont les possibles sorties de crise. Salut compagnon, salut Guy, salut Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonjour, ouais.
Bonjour, alors, si tu préfères, c'est pareil.
Donc au menu, un petit point sur la crise, résumé de situation, pour savoir un peu où on en est. On ne sait plus très bien, il y avait une crise financière, elle est toujours là.
Alors Guy, où on en est?
En Grèce, c'est pas terrible, hein. Enfin, ça dépend sous quel angle on le prend, quoi. Mais
c'est pas qu'une crise financière. Hein,
ouais. Mais bon, la crise financière. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'explications à ce qui se passe en Grèce. On n'est pas là pour parler de la Grèce, hein. Mais est-ce que justement la crise financière, elle peut pas aussi être une des explications à cette mobilisation, ces mouvements de jeunes?
Ça a dû être un des facteurs, parce que le moral de la jeunesse grecque était déjà pas vaillant pour un tas de raisons, hein. Parce que le développement de l'emploi en Grèce est très déprimé depuis un certain nombre d'années. Les jeunes sortant de l'université ne trouvent pas de job stable avant très longtemps. Ils restent coincés chez leurs parents jusqu'à 30 ans à peu près. Bon, c'est une jeunesse complètement démoralisée. Alors c'est sûr que là-dessus, un coup supplémentaire sur la tête a pu contribuer à enflammer cette jeunesse. Et quand on dit cette jeunesse, c'est plutôt les générations entre 15 et 40 ans, hein, qui manifestent.
Et on pourrait voir ça ailleurs, hein, Laurent ?
Alors là, moi, je ne fais jamais de conjectures sur ce type d'explosion sociale. Ce que l'on dit d'ordinaire, mais c'est peut-être l'occasion de démentir ces vérités historiques, ce qu'on dit d'ordinaire, c'est que les mouvements sociaux se produisent plutôt pas justement dans les phases de récession et de déclin. Ils se produisent dans les phases de reprise économique, au moment où l'espoir renaît, et n'est pas satisfait suffisamment rapidement. Et donc, à ce moment-là, c'est là que l'écart est maximum entre les attentes et la réalité. Et donc, c'est là que la frustration est maximum, c'est au moment des reprises.
Alors, pour revenir à la crise, hein, Jean, ta question, l'état des lieux, peut-être qu'on peut voir des conséquences, bon, et c'est lié sur l'emploi. Bon, je lisais, hein, que le taux de chômage a progressé au troisième trimestre en France, hein, je pense qu'il va progresser un peu partout. On compte quand même, si mes souvenirs sont bons, plus de 100 000 demandeurs d'emploi en plus, hein, cumulés depuis le début de la crise. Donc ça, c'est une conséquence inévitable.
Bah, c'est une conséquence d'abord immédiate, inévitable. Si on s'était organisé de manière à ne pas produire ce type de crise financière, c'était évitable. Mais effectivement, dans la crise est telle que le coup est parti, je me demande même comment ça se fait que ce soit pas pire. Parce que bon, comme tu le dis, on est passé d'une étape qui était celle de la crise financière, qui est peut-être pas complètement terminée d'ailleurs, mais à disons la phase de récession et des dégâts produits sur la production et l'emploi. Et moi, je suis un petit peu étonné, quand je lis les statistiques sectorielles, d'avoir du mal à faire le raccord avec les chiffres macroéconomiques qu'on nous donne. Parce qu'en gros, on nous dit, en 2009, faut s'attendre à une récession de l'ordre de 0,5% du PIB. Quand vous n'êtes pas économiste, on est un peu sur l'épaisseur du trait, quoi. Entre 1% de croissance et 0,5%, on pourrait dire les choses sont pas si catastrophiques que ça. Mais quand on regarde les statistiques secteur par secteur, on est quand même très très inquiet et très étonné des chiffres. Enfin, pour l'industrie automobile, on annonce entre...
En France?
Bon, alors déjà en France, alors ne parlons pas de l'Espagne, par exemple, parce que là, les choses sont parties à un rythme complètement diablé. Deux mots sur l'Espagne, quand même. Le taux de chômage est repassé très rapidement, entre 8 et 12% de la population, et on prévoit peut-être pour fin 2009, fin 2010, 17% de chômage. Bon, parce que c'est un effondrement total du secteur du logement et de l'automobile, et donc on voit qu'à certains endroits, le trou peut être profond. Donc là où je dis que je suis un petit peu inquiet, c'est que quand on regarde les choses un petit peu dans le détail, bon, secteur de l'automobile, on nous annonce déjà une baisse de 15 à 20% pour cette année, 2008. Pour l'année prochaine, à peu près pareil, par rapport à l'année 2007, hein, mais 10% d'affaires ou 15% d'affaires en moins, ça va laisser des traces. Quand on regarde le secteur du transport aérien, du fret en particulier, ça c'est assez étonnant. Dans le secteur du fret, on prévoit une baisse du fret aérien de 6% au niveau européen. Dans le secteur des transports routiers, on prévoit une baisse de 3%. Dans le secteur du logement, les constructions de logements neufs, c'est presque une baisse d'un tiers qui est annoncé pour l'année prochaine, etc., etc., etc. Donc, c'est dans le secteur de la restauration, on annonce moins 5%. Donc, je vois aucun chiffre en dessous, disons, au-dessus de 5%. Enfin,
de baisse.
Oui, je laisse à Jean.
En dessous de moins 5%.
Je ne vois aucun chiffre au-dessus de moins
5%. Au-dessus de moins 5%.
Au-dessus de moins 5%. Bon, donc, alors je sais bien qu'il y a d'autres secteurs qui baissent pas. Il y a la moitié de la production qui est une production relativement socialisée, l'éducation, la santé, d'autres secteurs comme l'armement, d'autres secteurs comme cela. Mais enfin, tout de même, j'ai l'impression qu'on nous donne des statistiques macroéconomiques un petit peu optimistes.
Ouais. Pour essayer d'avoir une vision un peu globale quand même sur la situation. On a parlé de crise financière. Est-ce que ce que l'on voit, la récession, est-ce que le chômage, la baisse d'activité, etc., est-ce que ce sont des conséquences de la crise financière ? Ou alors, ce qui a été dit par ailleurs, à savoir qu'il n'y avait pas de crise financière sans crise de l'économie réelle derrière, et donc la crise financière serait une manifestation de cette crise économique, et ce que l'on a aujourd'hui, c'est la manifestation de cette crise économique, et non pas simplement la conséquence de la crise financière qui serait, par exemple, que le crédit serait plus accordé et donc les investissements seraient plus durs. Est-ce que c'est ça le...
Bon, ça c'est tout de même un pilier important de la crise. C'est l'une des courroies de transmission de la crise qui s'est passée dans la sphère financière à l'économie réelle. Mais la crise financière elle-même, bien entendu, qu'elle n'est pas déconnectée de la manière dont on a organisé, entre guillemets, ou désorganisé l'économie réelle, puisqu'on s'exprime comme ça aujourd'hui, on est obligé de le préciser, depuis une quinzaine d'années. Parce que, grosso modo, depuis une quinzaine d'années, on a organisé la formation de la demande dans nos économies d'une manière qui marche complètement sur la tête, puisque, grosso modo, pour donner un bref aperçu des choses, les entreprises ont globalement considéré que l'investissement et la croissance des firmes n'étaient pas la priorité. Sous la domination des actionnaires, elles ont préféré se limiter aux projets d'investissement les plus rentables, en versant finalement la différence, le cash flow aux actionnaires. Donc pas du tout de développement de l'investissement, des projets d'entreprise, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Hein. Les entreprises internationales sont allées chercher des Eldorado ailleurs, mais enfin en tous les cas pas dans les vieux pays industrialisés. Donc ralentissement de l'investissement, pression sur les salaires, parce que la priorité c'était de verser des dividendes aux actionnaires. Et on se demande comment peut marcher une économie dans laquelle les deux principaux piliers de la demande finalement sont mis sous l'été noir, hein, la dépense d'investissement et la dépense de consommation des salariés. Comment ça marchait? Ça marchait pas bien, d'abord, il faut le dire. La croissance était médiocre depuis une vingtaine d'années. Si on la compare à celle des 30 glorieuses, on avait des taux d'accumulation et des taux de croissance de l'ordre de 2% par an, 1,5%, 2%, là où dans les 30 glorieuses, c'était de l'ordre de 5 à 6% par an. Bon, donc ça fait quand même 20 ans qu'on est dans des économies de croissance extrêmement ralenties, encore une fois, mis sous l'été noir par la dictature actionnariale. Et puis, bah, il y a eu des face à cette structuration de la demande aberrante, il y a eu des béquilles, disons d'une certaine façon. Les deux béquilles, c'était que bah, ce qui n'était plus investi allait quand même dans la poche des actionnaires sous forme de versement des dividendes. Et pour une part, évidemment, ils en ont consommé une partie, hein, ces actionnaires. Donc ça, il y a eu ce qu'on pourrait appeler le canal des dividendes qui est venu remplacer en partie la dépense d'investissement. Je donnerai un chiffre peut-être dans un instant. Et puis les salaires qui étaient mis sous pression, ben finalement ont précipité les ménages dans les bras des banques, qui étaient ravis de développer un secteur du crédit à la consommation qui est relativement nouveau. Hein, quand on regarde dans un pays comme la France, les grandes institutions comme Finaref, Cofidis, etc., ça fait une quinzaine d'années qu'elles s'implantent. Donc ces espèces de béquilles d'un capitalisme complètement soumis à la domination actionnariale et dans lesquelles la formation de la demande était détraquée, ces deux béquilles sont quand même aussi les piliers de la crise, et en particulier l'endettement des ménages. Donc si aujourd'hui nous sommes dans une récession, c'est à la fois parce que il y a du rationnement du crédit, il y a une méfiance généralisée des banques vis-à-vis des entreprises, ce qui est tout de même un comble, parce que c'est quand même pas les entreprises qui sont venues les mettre dans la panade. Bon, mais toujours est-il que la méfiance se produit dans ce sens-là. Et puis par ailleurs, les ménages et l'État lui-même étant déjà fortement endettés, parce que l'État aussi a joué d'une certaine façon le rôle de moteur d'appoint de la demande, hein, en ne prélevant pas autant l'impôt que les dépenses qu'il faisait. Il est venu de manière assez structurelle en laissant sa dette augmenter au secours d'une économie qui n'était pas flamboyante du tout. Alors pas par des plans de relance, mais en évitant de lever l'impôt suffisamment, d'une certaine façon, il accroît la dépense dans l'économie sans prélever des recettes à due concurrence. Ben, ces acteurs-là ne sont pas en mesure aujourd'hui de prendre leur lait, puisqu'ils sont déjà très endettés.
Alors, est-ce qu'on tu devais donner un chiffre? Je sais plus.
Oui, parce que c'est vraiment un chiffre très troublant. Si on regarde ce que les entreprises faisaient de leurs profits il y a une quinzaine d'années, enfin, disons au tournant des années 90. Donc, quand on regarde les profits nets des entreprises, c'est-à-dire après avoir déduit du produit des ventes les salaires, après avoir enlevé les intérêts payés aux banques et après avoir compté l'amortissement du capital, c'est-à-dire après avoir compté le fait que chaque année une partie du stock de capital productif des entreprises se dégrade par usure ou par obsolescence et qu'il faut le remplacer à l'identique. Donc après avoir compté cet investissement qui sert à reconstituer le stock de capital, on obtient le profit net. Bon, c'est-à-dire après avoir enlevé tous les coûts de production, quoi. Qu'est-ce que les entreprises faisaient de leur profit net? Ben, elles ont deux usages possibles. C'est soit on fait de l'investissement net, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on fait des investissements pour accroître la capacité de production. Alors, soit en quantité, soit en qualité de la production, hein, peu importe, mais donc on peut procéder à des investissements nets ou distribuer des profits aux actionnaires. C'est les deux usages des profits. Dans les années 90, c'était 50-50. C'est-à-dire qu'en gros, les profits se partageaient à moitié entre investissement net et dividendes. Donc il y avait un rapport entre les deux de 1 pour 1. Bon. Et quand on reprend les choses en 2006, c'est-à-dire juste avant le début de la crise financière, on a un rapport de 1 à 4, voire de 1 à 5, entre l'investissement net et le versement des dividendes.
Ça veut dire au niveau mondial, là, tu
sais. Alors, c'est 1 à 5 pour la France, 1 à 4 pour les États-Unis, pardon, et à peu près 1 à 3,7, 3,8 pour l'Union européenne. Ça, c'est des chiffres que j'ai retripatouillés les dernières semaines. Donc, on est devant quelque chose qui est énorme. Enfin, c'est une transformation absolument profonde du capital.
C'est très rapide.
En l'espace d'une quinzaine d'années, sous l'effet de la libéralisation des marchés financiers, sous l'effet de la montée en puissance des investisseurs institutionnels qui sont devenus les nouveaux actionnaires. Les actionnaires, c'est pas la veuve de Carpentras qui a une action planquée sous son matelas. C'est ces grands fonds qui collectent l'épargne des ménages et qui se retrouvent évidemment à la tête de masses financières énormes qu'elles-mêmes se chargent de placer dans des achats d'actions des entreprises. Bon. Et donc c'est une transformation extrêmement profonde du capital. Ça veut dire que on n'est plus du tout dans un capitalisme comme aurait dit Marx, accumuler, c'est la loi des prophètes. C'est plus du tout ça la loi des prophètes, c'est posséder les entreprises hein, et extorquer de l'entreprise le cash flow pour le balancer aux actionnaires. Donc d'une certaine manière, c'est plus qu'un rapport social, quoi. Enfin, on pourrait dire il apparaît d'une manière assez nue et la légitimité même, s'il y en a une, du capital est en train de s'effondrer. Enfin, parce que quand le profit vient de l'investissement et quand il sert à l'investissement, on pourrait dire bon, ok, les travailleurs sont spoliés d'une partie de leur travail qui sert à construire les moyens de production. Mais quand même, l'investissement, ça développe l'emploi, et puis demain, ça développe les gains de productivité, et puis tôt ou tard, quand même, les salariés récupèrent par les gains de productivité le fruit d'une partie de leur travail qu'ils avaient laissé sous forme de capital aux entreprises. Mais là, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Les profits ne servent pas à préparer l'emploi de demain, à préparer la croissance des firmes. Et donc, la propriété des firmes, quasiment, ne sert plus qu'à servir ses actionnaires.
Mais je reviens sur cette notion-là, enfin le principe de base du capitalisme, accumuler, s'enrichir. Est-ce que finalement cette évolution, c'est pas un transfert des personnes qui accumulent? Bon, parce que les patrons, même s'ils investissaient, ils accumulaient aussi, quand même. Hein, et aujourd'hui, donc, est-ce que c'est pas tout simplement les actionnaires qui accumulent? Enfin, il y a eu un transfert de
oui,
mais de patrons vers les actionnaires, mais dans toujours la même logique, s'enrichir. Quoi. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui s'enrichissent, mais elles s'enrichissent toujours à partir des productions de biens et de services.
Oui, mais nécessairement, il y a quelque chose qui a changé, c'est que entre l'actionnaire qui s'enrichissait parce que la taille de l'entreprise grossissait et sa fortune était sous forme d'une augmentation du capital productif, bon, des bâtiments, des usines, des infrastructures, des brevets, etc. C'est plus comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent par versement de dividendes accélérés et pour une grande part consommation ostentatoire de ces dividendes. Alors, consommation, dépenses en logement, en produits de luxe, en grosses bagnoles, en voyage, en jet privé, etc. Parce que si tu me dis, oui, mais avec ces dividendes, il réaccumule, il les réépargne, etc. Ben oui, mais ça devrait se voir dans les statistiques de l'investissement. Et une fois que tu as dit que l'investissement croît au rythme de 1,5% par an, alors qu'il croissait au rythme de 5% par an il y a 30 ans, on ne peut pas raconter une nouvelle histoire qui consiste à dire « oui, mais après avoir perçu leurs dividendes, ils les épargnent et ça développe l'investissement ». Non, après avoir perçu leurs dividendes, manifestement, peut-être qu'ils les épargnent, mais en tous les cas, ça ne sert pas à financer l'investissement et l'autre partie est consommée dans des consommations ostentatoires. Hein. Là, j'ai pas les chiffres, mais si on compare le développement des secteurs des produits de luxe avec le secteur des produits de consommation courante, le secteur des biens de luxe est développé à une vitesse exceptionnelle.
Est-ce que, pour parler des conséquences sur ce qu'on appelle l'économie réelle, comme tu disais, est-ce qu'on peut s'attendre à des pans entiers de secteurs de l'économie qui vont s'effondrer, type par exemple ce qu'on a connu sur la sidérurgie, qui s'est complètement écroulée dans les pays du centre, par exemple en France, quoi. Est-ce qu'on peut avoir, bon, alors on parle de l'automobile, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça qui vont s'effondrer? On peut s'attendre à des vagues de licenciements massifs qui se chiffrent par des dizaines de milliers, quoi. Est-ce que c'est l'ampleur qu'on a un peu de mal à...
Mais tout à fait, mais moi aussi, j'ai du mal à saisir l'ampleur de ce qui va se passer, parce qu'encore une fois, quand on regarde les choses sectoriellement, on est un peu plus inquiet que quand on regarde les données macroéconomiques. Personnellement, mais je tiens pas cette conjecture pour bien solide, je ne pense pas que un secteur comme l'automobile peut complètement s'effondrer. Bon, alors tu vas me dire, je peux signer en bas d'une phrase comme celle-là, elle est relativement prudente. Mais c'est d'une façon générale, c'est un peu l'ensemble du secteur automobile mondial qui s'effondre et ce qui arrive à l'automobile européenne ou française n'est pas dû à une perte de compétitivité vis-à-vis du reste du monde. J'en dirais pas autant pour l'industrie automobile américaine, qui elle avait des problèmes de rentabilité et de compétitivité avant la crise. Mais pour l'automobile européenne, c'était pas le cas, et Renault avait plutôt au contraire jusqu'en 2006 des résultats très très enviables et versait à ses actionnaires de confortables dividendes avec des gammes dont on a dit qu'effectivement elles avaient quand même perdu ces deux dernières années un petit peu d'attrait, un petit peu de pénétration du marché, etc. Mais c'était des entreprises saines et compétitives avant la crise. Et donc elles subissent l'effondrement de la consommation. Bon. Alors si c'était un effondrement vraiment durable, il y aura des saignées dans le secteur de l'automobile. Ça c'est incontestable, mais ça ne veut pas dire que ces entreprises vont disparaître ou que des pans de ces activités entiers vont disparaître. Le mieux serait tout de même de programmer une sortie par le haut de l'industrie automobile avec des véhicules nettement moins consommateurs de CO2 et puis de commencer à développer dardard les véhicules plus écolos si c'est possible. Et s'il ne faut pas non plus se raconter des histoires, on ne va pas transformer l'automobile du jour au lendemain en zéro émission de carbone.
Une voiture à pédale, quoi.
Une pédale, une voile, plus que quelques capteurs solaires, mais bon, je pense qu'on est encore loin de faire rouler à 50 à l'heure des voitures solaires et des chars à voile. Bon. Et l'autre secteur qui souffre beaucoup, c'est le bâtiment. L'autre secteur qui souffre énormément, c'est le bâtiment. On voit pas non plus disparaître un secteur du bâtiment dans un pays donné. La crise peut être très profonde, il peut y avoir beaucoup d'emplois supprimés, mais le secteur du bâtiment, il va pas s'en aller dans un autre pays parce qu'on a une crise économique. Donc finalement, pour l'instant, les ressorts de la crise sont vraiment une crise de la formation de la demande, qui est, je vais pas dire classique, elle est au contraire de nature assez keynésienne, mais c'est pas simplement une crise conjoncturelle. On a tout fait depuis 15 ans pour que la demande, à un moment donné, qui a été échafaudée sur des dettes, et non une progression relativement saine des revenus et des revenus salariaux, s'effondre.
Alors peut-être une question qui est plus complexe, je ne sais pas, enfin jusque maintenant tout ce qui a été dit est quand même remarquable de complexité, mais on dit que nos sociétés vivent des crises multiples, bon, crise économique, crise financière, bon, on a vu leur connexion, et crise écologique. Tu en as parlé en termes de sortie de crise, mais comment c'est connecté comme ça? Par exemple, on pourrait dire l'automobile, la crise du secteur de l'automobile est liée au fait que c'est la crise aussi énergétique, c'est-à-dire que on a un système de production d'énergie qui est lié sur les énergies non renouvelables. Manifestement, c'est une impasse. On pourrait se dire, ce secteur-là, il vit de toute manière une crise historique. Est-ce qu'elle est directement connectée? Est-ce qu'elle a un impact direct sur la crise économique actuelle?
Bon, là, il faut. C'est aussi une question compliquée. Il faut distinguer.
On avait déjà abordé cette question. Ouais. Je me souviens sur la crise alimentaire.
Oui. Et alors, s'agissant par exemple du secteur de l'automobile par rapport à la donne écologique, mais côté ressources, disons côté fourniture pétrolière, puisque c'est l'aliment principal de l'usage de la voiture. En fait, on avait commencé effectivement à observer que avant la crise, parce que le prix du baril et le prix de l'essence étaient extrêmement chers, pour la première fois aux États-Unis, mais aussi en France, les ménages avaient diminué le nombre de kilomètres parcourus en voiture. Bon, donc il y avait quand même en bout de chaîne, dans l'usage du produit, disons, il était un petit peu attaqué parce que les individus commençaient à se rendre compte que ça leur coûtait cher. Bon. Pardon, et commençaient à restreindre leur déplacement. Et puis ils se sont tournés effectivement davantage vers les petites voitures. Et puis il y a eu le coup assez efficace du bonus-malus de Borloo qui a encore accéléré le déport vers les petits modèles et le délaissement des gros modèles. Bon, sur lesquels d'ailleurs les entreprises font plus de marge. Bon. Donc la donne écologique avait un petit peu commencé à prendre en étau l'industrie automobile des deux côtés. D'un côté, vous allez devoir vendre plus de petits modèles moins consommateurs d'énergie. Et puis en même temps, le consommateur, il commençait à hésiter à dépenser de l'argent dans ce bijou parce que ça coûtait cher aussi à l'usage. Mais c'est pas par ces effets directs, à mon avis, que la donne environnementale est venue nous toucher. Je pense que l'augmentation des prix du pétrole qui a eu lieu sur les deux dernières années, maintenant, qui s'est renversé depuis le mois de juillet, mais qui avait eu lieu sur les deux dernières années, cette crise, cette augmentation des prix du pétrole, mais aussi de l'ensemble des matières premières et des prix des produits alimentaires, ça faisait quand même une grosse partie des revenus des agents résidents en France qui étaient dépensés à l'extérieur pour acheter ces biens-là. Et ça fait un gros trou dans la formation de la demande globale en interne. C'est une partie des revenus qui sont générés ici et qui ne sont pas redépensés ici, c'est-à-dire à des entreprises qui finalement ont créé ces revenus avec leurs salariés, bien entendu. Et à l'inverse, on peut en prendre la mesure parce que le chiffre a été donné ce matin à la radio. La baisse des prix du pétrole depuis juillet, Si le pétrole restait à $40, par exemple, encore pendant un an, ça fait une économie quand même sur la facture énergétique de l'ensemble des agents économiques français de l'ordre de 50 milliards d'euros par an. Ça veut dire que ces 50 milliards qu'on a dépensés en 2007 et 2006 à l'extérieur, qu'on va pouvoir, d'une certaine manière, dépenser ici. Bon. Donc ça peut avoir un bon effet de relance de l'économie, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du plan de relance de Borloo, mais le plan de relance de Borloo, c'est 26 milliards sur... Sarkozy. C'est 26 milliards sur 2 ans. Donc disons 13 milliards par an. Donc on voit les effets macroéconomiques qui peuvent être extrêmement puissants de la variation du prix des ressources naturelles, et qui vient en plus en accordéon avec la croissance. Dans le boom, le prix de ces matières premières augmente très fort, casse le boom. Une fois le boom cassé, hop, le prix de ces matières premières rebaisse. Et donc, on risque d'avoir des croissances comme ça, un petit peu en accordéon.
On va faire une petite pause musicale. Ensuite, on examinera justement ces plans de relance. Mousse et Hakim. Origine contrôlée.
Taxité Ajmien, Abdina Indan, Taxité Ajmien, Mdina Gmdan, Mim.
اسمي بدنا نوشي وين كل يوم سنبر نازم. تزدرت دل كرسن مزون مشيد اسمتن تزدرت دل كرسن مزون مشيد اسمتن سكر عقل يقماس من وين نسيت محن من وين سايم ماس يروح جنبي لازم سكر عقل يقماس من وين نسيت محن من وين سايم ماس يروح سد الفرق ويغرب ويشرق مكل يوم ندي شواق دي راح بيفرق داين مكل يوم ندي شواق دي راح بيفرق داين سكر عقل يقماس من وين انسى يتمحن من وين ساي ماس يروح الجندي لازم سكر عقل يقماس من وين انسى يتمحن من وين ساي ماس يروح الجندي لازم سنيد وسامي جرب يسن انت قي ورجيك سنيد تصم جرب يسن يلا الخردق مزيان مي مغرد فرق داين يلا الخردق مزيان مي مغرد فرق داين سكر عقل يقماس من وين نسيت محن من وين ساي الناس يروح الجندي لازم سكر عقل يقماس من وين نسيت محن من وين ساي الناس يروح الجندي
Journal de tumulte sur Radio PFM 99.9. Guy, nous recevons Laurent Cordonnier, l'économie en question. Alors, on a fait un petit tableau de la crise sous ses différents aspects. On va examiner maintenant la question des différents plans de relance, Guy.
Si tu veux, hein, Jean. Donc, face à une crise globale, on peut dire ça.
Ah oui, oui.
Hein, donc plusieurs plans de relance ont été annoncés. On va peut-être s'arrêter plus particulièrement sur celui qui nous concerne directement en France. Le plan qui a été annoncé est dans la région d'ailleurs, hein, à Douai, par Nicolas Sarkozy. Donc tu as annoncé déjà le chiffre, hein, 26 milliards, hein, j'hésitais, mais 26 milliards d'euros, c'est à peu près dans le même ordre de grandeur que ce qui s'est passé, enfin que les plans de relance allemand, anglais, espagnol, moins en Italie. Mais donc, est-ce qu'il y a une logique? Alors bon, avant de voir s'il y a une logique, hein, globale, le plan de relance de Sarkozy, qu'est-ce qu'on peut tirer comme...
On peut donner principe. Deux, trois éléments de détail, ouais. Et puis ensuite quelques éléments d'appréciation. Sur le plan, en gros, il y a presque la moitié, enfin ça fait pas tout à fait la moitié, mais 11,5 milliards de ces dépenses qui sont en réalité pas vraiment des dépenses nouvelles, ce seraient des remboursements anticipés de l'État vers les entreprises de certaines créances quoi que les entreprises ont sur l'État. Par exemple, ce serait l'anticipation du remboursement du crédit recherche aux entreprises qui devait se faire sur 3 ans puis qui se fera sur une année. Alors ça fait quand même 3,8 milliards ristournés aux entreprises, des remboursements anticipés aussi de trop perçus de TVA, des remboursements de trop perçus d'impôts sur les sociétés. Donc quand on prend ça fait tout de même 11 milliards. Bon. Il ne s'agit pas vraiment de dépenses nouvelles, mais plutôt d'anticipation, de remboursement qui de toute façon
améliorer la trésorerie, non ?
Et voilà, dont la conséquence est tout de même d'améliorer la trésorerie des entreprises. Bon, alors ça peut être important dans la phase actuelle, mais en tous les cas, ça ne veut pas dire nécessairement que derrière ces 10 milliards, il y a 10 milliards d'activités en plus et il y a autant d'emplois en plus. Hein. Mais ça empêchera sans doute certaines entreprises de se retrouver dans la difficulté compte tenu des problèmes de financement qu'elles ont aujourd'hui. Et puis un autre grand bloc, 10,5 milliards, qui là représente plutôt un volet classique de relance keynésienne avec soutien aux projets dans les grandes infrastructures. Donc infrastructures de transport, d'énergie, de défense, soutien aux universités avec un volet investissement dans les bâtiments et les infrastructures. Et puis une partie de ces 10 milliards d'ailleurs venant plutôt d'engagement des grandes entreprises publiques, EDF, RATP, à procéder à des améliorations de leur réseau, de leurs infrastructures. Donc un deuxième pilier quoi qui est disons typiquement keynésien, soutien à l'investissement public. Et puis ensuite après il y a un petit peu des miettes à droite à gauche. Alors une grosse miette quand même, 1,6 milliard pour le soutien au secteur du logement. Alors à la fois en faisant racheter par la Caisse des dépôts et consignations un peu clé en main des projets immobiliers pour qu'ils débouchent quoi et puis qu'ils aillent à leur terme et puis surtout le doublement du prêt à taux zéro pour l'acquisition d'une première résidence et qui ce doublement serait réservé à l'acquisition d'une résidence neuve d'une construction neuve. Bon, ça fait un paquet important. Ensuite, il y a un paquet qui est des ristournes de nouveau de charges sociales au niveau du SMIC pour toutes les embauches dans les PME de moins de 10 salariés en 2009. Donc là, il y aura quasiment plus du tout de charges sociales au niveau du SMIC pour les charges sociales patronales. Pour les PME, ça fait 700 millions, donc c'est pas grand-chose. Et le seul volet social du plan... finalement c'est cette histoire de prime de 200 euros qui serait versée aux 3,8 millions d'allocataires des minima sociaux et ça représente un peu une virgule dans le plan puisque ça se montrerait à peu près ce volet-là à 370 millions sur les 26 milliards, ce qui fait à peu près 3% du plan.
Voilà. En mars, ça c'est pour...
Ça doit intervenir
tout de suite
à ce moment-là. Ouais. Donc voilà à peu près le détail du plan. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire sur est-ce que ça tape fort ou pas? Bon, on se rend compte que en dépenses réellement nouvelles et de soutien, si on compte pas l'amélioration de la trésorerie des entreprises, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 15 milliards. Bon. Par ailleurs, on compte là-dedans un certain nombre de choses qui de toute façon auraient dû être faites tôt ou tard, mais qui sont pour certaines des accélérations de projets ou de programmes qui étaient dans les tuyaux. Bon. Par ailleurs, c'est sur 2 ans. Donc, il ne s'agit pas d'un coup frappé très fort sur une année. Donc, ça voudrait plutôt dire 10 milliards cette année, en 2009 et 5 milliards en 2010. Alors, si on veut prendre la mesure de ce plan, il est quand même de portée limitée, mais déjà par les masses concernées. Hein. Si on le compare aux différents plans américains, ceux de Bush. Plus ceux de Obama qui vont venir. Nous, on est plutôt à 0,7% du PIB. Aux États-Unis, c'est plutôt 2,5% l'ampleur. Donc, on est presque dans un rapport de 1 à 4 hein, sur la frappe de force. Puis tout à l'heure, je le disais, un deuxième élément de comparaison, c'est par rapport à ce que va réinjecter, entre guillemets, la baisse des prix du pétrole, si elle se prolongeait, évidemment, pendant 12 ou 18 mois, on s'aperçoit qu'il y a un rapport de 1 à 2, 1 à 3. Bon. Donc, c'est pas forcément principalement de ce plan qu'il faut attendre une sortie de crise immédiate. Et comme disait c'est justement Guillaume Duval dans un éditorial d'Alter Echo, il vaudrait mieux comprendre ce plan comme une correction du budget de rigueur qui avait été voté pour 2009. Parce que on s'en souvient plus maintenant, mais ça vaut le coup de le rappeler, c'est qu'en septembre, le gouvernement bouclait un budget qui était un budget de rigueur dans le sens où les dépenses de l'État augmentaient moins vite en 2009 que l'inflation prévue. Donc ce qui signifiait un recul en termes réels des dépenses publiques. Hein. Et avec certains,
il y avait plus de sous dans les caisses.
Il y avait plus de sous dans les caisses. Et avec certains secteurs qui étaient sacrifiés, dont le logement et l'université, et qui eux voyaient leur budget diminuer en euros courants. Bon. Donc quand on dit ça, ça veut dire que finalement c'est plutôt un un petit oral de rattrapage pour pas présenter un budget qui freine des quatre patins au moment où il y a une grave crise de la demande en France.
Voilà. En tout cas, bon, enfin, en t'écoutant, on a ce sentiment-là aussi. C'est plutôt l'entreprise, les investissements d'entreprise qui sont favorisés, plutôt que, bon, t'as parlé de quelques miettes, le social, très très peu, quoi. Donc il y a un choix qui est fait, qui n'a pas forcément été... qui est pas forcément le même dans les pays d'Europe, les principaux pays d'Europe. En tout cas, là, on a ce sentiment-là.
Bah, en Angleterre, le plan est complètement différent. Il s'agit d'une baisse de la TVA pour stimuler la consommation des ménages. Je crois qu'on a raison quand même de privilégier l'investissement des entreprises. Bon, de deux choses l'une. Soit on dit qu'on peut augmenter la consommation par l'augmentation des salaires. Bon, cette piste qui aurait plutôt ma sympathie, évidemment, mais cette piste pose deux problèmes. D'abord, qui a la main sur les salaires? Est-ce que c'est directement l'État? Pas complètement. Évidemment, il peut, à travers le SMIC, donner un coup de pouce au bas de l'échelle salariale. Il peut, à travers les salaires des fonctionnaires, augmenter les salaires des fonctionnaires en espérant que ça a un petit effet d'entraînement sur le reste de la société. Donc, effectivement, il a en partie un bout d'effet sur les salaires. Le reste dépend quand même beaucoup de la politique des firmes et de la capacité revendicative des salariés. Or, dans une période où le chômage augmente en flèche, la capacité revendicative des salariés, généralement, je ne veux pas faire de conjecture définitive, mais généralement, elle n'est pas au beau fixe. Deuxièmement, quand bien même on aurait un petit peu la main sur les salaires, est-ce qu'on est sûr que lorsque les salaires monétaires augmentent, les salaires réels augmentent? C'est-à-dire que si les entreprises sont en capacité de répercuter l'augmentation des salaires dans leurs prix, parce qu'elles arrivent à défendre leur taux de marge, comme on dit, ben c'est pas en augmentant les salaires directement, les salaires monétaires, qu'on arrive au bout du compte à avoir des augmentations de salaires réels. Les augmentations de salaires réels, on les obtient si effectivement l'investissement redémarre, si l'emploi redémarre, et si dans cette conjoncture qui est meilleure, les salariés arrivent à obtenir des augmentations de salaires que les entreprises n'arrivent pas forcément à répercuter dans leur marge, parce qu'à ce moment-là, elles sont en train de se battre pour l'extension de leur part de marché, l'écoulement de leurs produits avec le redémarrage. Et donc, à ce moment-là, elles auraient tendance à privilégier, au contraire, une position compétitive et tenir les prix. C'est seulement dans ce genre de perspective qu'on arrive à augmenter durablement les salaires. Donc moi, j'ai pu... Tant qu'on reste à l'intérieur du jeu convenu d'une économie capitaliste qui reste malgré tout une économie de marché, il me semble que ça transite essentiellement par l'investissement. Ça ne veut pas dire que dans la crise, il ne faille pas prendre des mesures de protection pour ceux qui vont trinquer. Et que dans la crise, il faut soutenir les gens qui vont se retrouver au chômage, il faut soutenir les minima sociaux. Mais donc il faut vraiment dresser le filet de sécurité de ce côté-là. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, je pense que ça passe difficilement par l'augmentation des salaires. On pourrait dire, bah oui, mais Gordon Brown, lui, il fait autre chose, il baisse la TVA.
Parce que les entreprises, elles investissent quand même quand il y a des débouchés.
Oui. Ouais.
Sinon... Elles n'investissent pas, donc il faut, oui. Donc il faut trouver le juste équilibre, quoi.
Non, c'est tout à fait juste. Il faut trouver le juste équilibre, et cet équilibre, il a été tordu pendant les 15 dernières années, puisque le partage de la valeur ajoutée s'est dégradé. Dégradé, si on prend le point de vue des salariés, il a été en défaveur des salariés. Donc là, il n'y a pas eu le juste équilibre. Les salaires n'ont pas augmenté au rythme des gains de productivité, et donc ne fournissent pas aux entreprises les débouchés au rythme où les entreprises sont capables de les produire. Bon, mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas la main directement sur ce calage entre les salaires et les gains de productivité, en particulier tant que l'entreprise fonctionne aussi pour uniquement du point de vue de la logique actionnariale. Alors Gordon Brown, on pourrait dire, bah lui, il fait autrement. La relance par la consommation, il a fait en baissant la TVA. C'est une façon de procéder. Je pense qu'elle a un inconvénient assez fort. C'est que après, comment on fait une fois passé la crise, on remonte la TVA. Enfin, il y a un moment, on peut difficilement dire que on va mener des plans de relance et que l'impôt ne finira jamais par être prélevé sur ceux qui peuvent le payer.
Bon, on remonte l'impôt sur le revenu.
Alors peut-être qu'on peut faire ça, baisser la TVA et puis de l'autre côté augmenter l'impôt sur le revenu des personnes les plus aisées. Effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intelligent. Je suis pas sûr d'avoir entendu ça dans le plan de Gordon Brown.
Est-ce que tu penses que par exemple le plan de relance de Sarkozy est à même tu as montré ses limites, mais est-ce qu'il va avoir quand même un effet?
Non, moi je pense là par rapport au blocage de l'investissement et de la consommation qui est dû au fait que maintenant ça y est, les gens sont dans l'atmosphère de crise. Hein. Alors certains dans l'atmosphère et d'autres ils sont déjà réellement. Il y a un blocage assez profond de la dépense et donc je pense que ça joue petit bras par rapport à cette affaire. Et je crois que si effectivement on voulait faire quelque chose à la hauteur, il faudrait un plan peut-être quatre fois plus important. Mais le problème, c'est de pas non plus faire des bêtises dans la crise, quoi. Il faut quand même qu'on trouve des pistes pour l'investissement qui soient des pistes intéressantes, qui soient des pistes en particulier qui nous fassent passer de manière un petit peu accélérée vers le développement durable, mais pas que des mots, c'est-à-dire arriver un peu plus vite que prévu vers une réduction, enfin, ce qu'on appelle le facteur 4, quoi, une réduction des émissions de carbone, développer le secteur des énergies nouvelles, développer le secteur du transport ferroviaire, des voies alternatives de transport, etc. Donc comment on fait? Comment on fait à un horizon de 3, 4 ans, 5 ans et au-delà, 10 ans, pour programmer des dépenses d'investissement, qu'elles soient privées ou publiques, dans ces secteurs-là. Et là, je crois que c'est effectivement une belle question financière. C'est comment, quel dispositif ingénieux on trouve pour que les entreprises, les administrations, les ménages qui investiront dans cette direction... Comment on peut financer leurs investissements avec des charges d'intérêt quasiment nulles? C'est ça qu'il faut trouver comme équation. Comment, pour ceux qui font le bien, entre guillemets, et qui donnent du contenu intéressant à la croissance, comment on les encourage avec des taux très bas? Et puis comment, pour les autres, on met des conditions de crédit qui ne sont pas avantageuses du tout?
On aborde un peu les différents scénarios de ce scénario de sortie de crise. Tu mixes justement la sortie de la crise économique avec la sortie de la crise écologique. Alors bon, il y a une question. On dit que ces crises sont le produit aussi d'un système. Bon. Qui est le système de toujours produire plus de marchandises, qui est le propre du système capitaliste, quand il a atteint un certain niveau, c'est-à-dire qu'il transforme aussi une catégorie d'hommes en marchandises, en devenant salarié. C'est à partir de ce moment-là que le capitaliste devient d'un productivisme tel qu'il dégrade la nature qu'il utilise et qui rend les conditions de survie de l'humanité de plus en plus précaires et même menacées complètement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une sortie de crise économique, écologique, qui se fasse sans toucher à ce principe-là du système, principe même du système capitaliste? Parce qu'on pourrait se dire, c'est pas simplement comme la crise de 29, par exemple, dont on a pu sortir par un nouveau compromis social sur, parce qu'il y a aussi eu des mouvements sociaux, donc il y a eu un nouveau compromis social avec un New Deal. Est-ce qu'on peut en sortir simplement, par exemple, ce qu'on appelle un New Deal vert ou qui ne toucherait pas au capitalisme?
on fait trois émissions là-dessus, un de ces quatre. Non, je trouve que c'est une des questions les plus intéressantes, mais je pense que Guy aussi a son avis. Le fond de ma pensée, c'est non. C'est non. Je pense que si Si on garde nos structures économiques de type capitaliste marchande, je crois qu'on va dans le mur. Je vois pas comment on s'en sortira. Parce que bon, bah, peut-être que je suis un oiseau de malheur, hein, peut-être que je suis vraiment très pessimiste, mais je pense que vu l'évolution des courbes qu'on peut lire tous les jours, on est loin d'arriver au facteur 4 en 2050. On est encore en train d'augmenter nos consommations de carbone, nos émissions de carbone à toute vitesse. Bon, et puis je parle pas de la dégradation de la biodiversité, la disparition des espèces, la dissémination des produits chimiques, la montée des cancers, etc. Bon, donc quand on regarde tous ces signaux symptomatiques de la pathologie, des pathologies sociales et écologiques qui se développent, il y a de quoi être très très effrayé. Et puis se dire que, en gros, on devrait plus raconter d'histoire. On va vers un monde épouvantable, et on se posera la question de savoir comment on doit se protéger en traversant le mur, mais on va le traverser. Bon, donc moi je suis très pessimiste. La difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'on peut limiter les dégâts et est-ce qu'on peut avoir ce discours qui consiste à dire bon, on voit pas trop comment on va changer de cheval en pleine bataille, quoi. C'est ça le problème. Comment on fait pour se dégager de cette affaire? C'est quand même pas extrêmement simple. Est-ce qu'on peut changer de monture, un, dans une crise, et deux, avec tous les chantiers qu'on a? Alors, moi je fonde un peu quelques espoirs sur l'idée que le capitalisme a certes cette hubris qui consiste à produire toujours plus de marchandises pour faire toujours plus de profit, mais il n'est pas condamné en termes de contenu. C'est-à-dire que je crois que les capitalistes peuvent produire des bombes antipersonnelles comme ils peuvent produire des marchandises intéressantes. Enfin, le capitalisme n'est pas condamné à produire un type donné de marchandises. Bon. Il peut produire des marchandises qui sont pauvres en émissions de CO2, qui sont intéressantes en convivialité de consommation des biens, etc. Mais il le fait pas de lui-même. C'est-à-dire que si on fait pas cette coordination, si on lui impose pas des règles très très strictes, il le fait pas de lui-même. Parce qu'il a toujours l'impression que la propension à payer les marchandises à faible contenu écologique ou à faible contenu social est supérieure à la propension à payer des marchandises qui ont une haute qualité environnementale, qui ont de bonnes normes sociales de production, etc. Et d'une certaine manière, il se trompe pas. Il faut quasiment obliger le consommateur aussi à se tourner vers des produits qui ne dégradent pas la planète, qui font des économies de carbone, etc. Donc il faudrait, pour avoir une sortie avec cette vieille guimbarde de capitalisme, une sortie par le haut, il faudrait des obligations extrêmement strictes, à la fois du côté du consommateur, du côté du contenu des investissements, du côté du contenu des process et du côté du contenu des produits. Bon. Et puis ensuite, trouver l'ingénierie de financement pour financer ces projets d'investissement intéressants. Voilà, donc je pense que c'est pas totalement impossible à l'intérieur du système capitaliste d'éviter le pire, mais ça veut dire qu'il faut quand même passer à un autre régime politique. Enfin, je veux pas dire abandonner la démocratie, c'est pas ça que je veux dire, mais à une autre manière de concevoir l'action politique, et puis arrêter de nous emmerder avec la liberté de choix du petit individu consommateur aussi, parce que ça aussi c'est agaçant. C'est vrai qu'il y a les actionnaires qui embarquent les entreprises d'un côté, mais il y a aussi la fichue liberté du consommateur de faire n'importe quoi qu'il faut aussi encadrer. Et je crois que là c'est aussi un angle mort anthropologique. On a l'impression qu'on peut pas toucher, si vous voulez, à la liberté du consommateur. Elle a l'air aussi précieuse que je ne sais pas quel autre type de liberté dont on ne fait d'ailleurs pas usage.
Ouais, bah peut-être pour conclure justement, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent, enfin je sais pas, des économistes, des penseurs qui hein, puisqu'on est face à une crise globale, une crise de système, est-ce qu'il y a des propositions de systèmes alternatifs, des réflexions là-dessus au niveau économie,
Jean, c'est peut-être organisation, c'est peut-être sociale. Une question qu'on va mettre à l'ordre du jour prochainement.
Bah oui, il faudra examiner ça dans un prochain tumulte, faire un peu le tour des propositions alternatives. Alors des volontés d'alternatives, on les a dans la société. Mmh. Les gens qui construisent des circuits alternatifs de production et de distribution, les systèmes d'échange non monétaires, ce genre de choses. On sent quand même que dans la société...
Ça représente 10% de l'activité économique. C'est
10%
énorme.
Aujourd'hui.
Ah oui, c'est important. Mmh. Oui. Mmh.
Donc autour de ça, il y a évidemment une théorisation de cela. Bon, ce qu'on voit moins, c'est quelle stratégie globale il peut se greffer sur ces pratiques-là alternatives et comment elles peuvent cette stratégie se nouer sous forme de mouvement social, d'exigence, de formulation politique. Mais bon, il y a des gens certainement qui réfléchissent là-dessus.
Et même, peut-être il faut le dire, parce que j'ai peut-être été un peu caricatural tout à l'heure, mais même du côté des entreprises, il ne faut pas se désintéresser de l'avenir, de ce qui va se passer dans les entreprises. Je pense que c'est un bon moment pour poser la question de savoir qui gouverne les firmes et à qui elles appartiennent. Et pour l'instant, la doctrine, c'est qu'elles appartiennent uniquement aux actionnaires et c'est eux qui peuvent se remplir les poches et qui décident de la stratégie des firmes. Je pense qu'il faut élargir le cercle des parties prenantes qui gouvernent les firmes. Ça doit être les salariés doivent être impliqués dans le gouvernement et l'administration des firmes. Les consommateurs doivent être impliqués.
Mmh. Une espèce de droit de contrôle sur la production.
Mais parce qu'on voit bien que ce sont des objets collectifs qui sont capables de faire soit... énormément de bien, mais c'est aussi énormément de dégâts. L'entreprise ne doit pas être fétichisée comme quelque chose qui spontanément produirait du bien collectif. Tantôt elle en produit, tantôt elle n'en produit pas. Mais et mettre davantage de parties prenantes dans sa gouvernance, y compris les territoires. Quand vous avez une entreprise qui fait 30 000 emplois dans le bassin d'emploi, je pense qu'elle ne peut pas être complètement gouvernée sans que s'en mêle le territoire, qui lui-même crée des infrastructures, crée des écoles, donc qui voilà. Donc le capitalisme pourrait aussi d'une certaine façon se modifier un peu de l'intérieur, mais à condition que les hommes politiques trouvent que ce soit un objet intéressant et qu'ils le promeuvent.
On va terminer cette émission ainsi. Peut-être on va quand même signaler, tu en avais de touché un mot, mais il n'était pas encore sorti. Laurent, là cette fois-ci, l'hors-série du monde diplomatique, manière de voir...
qui s'appelle Le crash du libéralisme.
Est paru.
Il est paru, ouais, ouais. Et
donc je crache sur le libéralisme. Non, c'est le.
Oui, je pense que peut-être certains ont voulu susciter cet équivoque. Enfin, c'est oui. Et il est sorti. Et c'est un, on pourrait dire un collector d'un certain nombre d'articles qui sont parus dans le monde diplomatique depuis presque la Reaganomics. Je crois que le premier papier, il date de 86, le premier papier qu'il y a dans le recueil. Donc pratiquement 20 ans d'analyse du monde diplomatique sur toute la belle période, quoi, la période du capitalisme financiarisé. Et on s'aperçoit que heureusement dans la société, il y a quand même des gens qui voient les choses arriver de loin et qui ne vous intoxiquent pas sur la mondialisation heureuse. Bon, ça fait plaisir à lire.
Ok, au mois prochain, Laurent. L'année prochaine.
À l'année prochaine.
Ciao. Fin du magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 15h et à 12h30. Et sur le net, radiopfm.com. Salut.